Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote ! Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Le monde est fou et la psychanalyse est décolonisée. Bien sûr, il y a Sigmund Freud en Europe, avec ensuite ses disciples, en Europe surtout, et en Occident. Mais aussi le reste du monde. Et dans cette histoire, le récit traditionnel rencontre la psychanalyse, un voyage en Inde, au Sénégal, à Madagascar, dans le monde arabe, la Chine, partout, où le contexte colonial a marqué les esprits.
Notre connaissance et celle des Européens, c'est comme le jour et la nuit.
La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée.
Les guérisseurs savent quelle est la limite de leurs moyens et les psychiatres connaissent également la limite de leurs moyens. Il y a donc une collaboration.
Bonjour Livio Boni.
Bonjour.
Il va falloir nous expliquer. Que signifie le titre de cet ouvrage que vous avez co-dirigé, Psychanalyse du reste du monde ?
Oui, évidemment, les titres sont en partie une provocation, dans la mesure où ils renversent la formule nord-américaine « the West and the Rest », la formule qui fait donc de tout ce qui est extra-occidental quelque chose d'accessoire par rapport à l'Occident. Et l'idée du livre... C'est par contre de valoriser l'histoire, la présence de la psychanalyse dans le monde non occidental et en particulier dans les anciens territoires coloniaux et post-coloniaux. Il faudrait peut-être ajouter le fait que la notion de reste est cruciale en psychanalyse. C'est-à-dire les psychanalystes, au fond, ne travaillent qu'avec des restes.
Les historiens aussi travaillent avec des restes, avec des traces. Ici, sur cet ouvrage que vous avez co-dirigé avec Sophie Mandelson, il y a un sous-titre « Géo-histoire d'une subversion ». Nous ne pouvons comprendre cette psychanalyse du reste du monde qu'en ayant un regard historique. Partons au point de départ. La naissance de la psychanalyse, c'est où ? C'est quand ?
La naissance de la psychanalyse est liée à l'espace de l'ancien empire austro-hongrois. Et toute la première génération des psychanalystes, ou presque, étaient des juifs qui venaient des territoires les plus orientaux de l'Empire, la Moravie, la Galicie, la Bukovine, et qui convergent vers ce qu'on appelait la mythe de l'Europe, l'Europe centrale. Et donc, bien sûr, la naissance de la psychanalyse est à Vienne. Et dans l'histoire de la psychanalyse, on se représente souvent les mouvements de la psychanalyse comme un mouvement d'occidentalisation progressive. Pourquoi ? Parce que l'avènement du nazifascisme chasse les juifs, couvre cet espace de l'Europe centrale, oblige les psychanalystes à se déplacer vers la Grande-Bretagne, vers les Amériques, etc. De sorte que on se représente souvent l'histoire de la psychanalyse comme un mouvement de plus en plus vers l'Ouest. Comme un processus presque d'occidentalisation de la psychanalyse. Et nous avons voulu aussi introduire une sorte de contrepoint à cette représentation en valorisant d'autres modes de circulation, non pas vers l'ouest, mais vers le sud, ou vers l'est, ou du sud au nord, dessiner une sorte de géographie des savoirs qui complique cette idée un peu spontanée selon laquelle il y aurait un mouvement, un rouet, vers l'ouest uniquement. Non, il y a d'autres mouvements et il y a un rapport au sud et en particulier aux espaces coloniaux qui travaillent la psychanalyse depuis les années 20. Et c'est pour ça que les livres commencent avec les années 20, avec le Mexique après la révolution mexicaine en 19 ou l'Inde au début des années 20.
Livio Boni, vous êtes psychanalyste, directeur du programme du Collège international de philosophie. Dans cette démarche que vous avez, ce regard historique en tant que psychanalyste, est-ce que vous êtes dans un choix marginal ou alors c'est un élément qui peut intéresser ce monde de la psychanalyse ? Je le dis autrement, est-ce que l'histoire intéresse les psychanalystes ?
En tout cas, disons qu'aujourd'hui, les psychanalystes se trouvent confrontés aussi à... par exemple, à des questions en partie qui ont gagné une acuité, comme les questions raciales ou la critique post-coloniale, etc., et qui font débat dans les milieux psychanalytiques. Certains psychanalystes disent « circuler, il n'y a rien à voir ». Ces questions ne nous concernent pas. L'espace analytique est un espace autonome par rapport à cette question. Ou alors, d'autres disent « ce sont des modes, ce sont des injonctions qui nous viennent d'Amérique du Nord, des États-Unis, identitaires, etc., qui vont compromettre l'universalisme et la neutralité de l'analyste ». Alors, nous inscrivant un code de ces positions, nous avons essayé de montrer qu'en réalité, il y a toute une série de questions qui travaillent la psychanalyse depuis un siècle. Hein, que la question posée par la décolonisation, etc., ne sont pas du tout nouvelles, ne sont pas l'effet d'une mode, d'une vague qui verrait des États-Unis aujourd'hui ou de la pensée wokiste, etc., mais qui en réalité sont partie prenante de l'histoire du mouvement analytique depuis longtemps. Donc il fallait donner une profondeur historique, si vous voulez, à des questions qui font débat aujourd'hui, y compris dans la psychanalyse. C'est ça notre intention.
Oui, cette profondeur historique, et pour nous en parler, Raphaël Gagnin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en histoire contemporaine à l'Université Paris-Cité. Vous travaillez particulièrement sur Madagascar. J'ai dit le titre de votre thèse, Vivre fou sur les hautes terres, délire, corps et affect en situation coloniale, Madagascar. Donc 1863, les années 1970, sous la direction de
Didier Nativelle.
Cette profondeur historique. Moi, j'aime beaucoup l'idée que si nous parlons aujourd'hui de cette psychanalyse du reste du monde, ce n'est pas un phénomène de mode d'aujourd'hui, mais c'est plutôt le reflet d'une longue pensée qui nous conduit jusqu'aux années 1920, au moins.
Oui, absolument. Et il y a une historiographie qui est vivante aussi sur ces questions-là. Je cite très rapidement, mais Andreas Mayer, pour simplement les collègues francophones, Nicole Edelman et plus récemment Micha Sutter ou Romain Tiquet qui travaillons sur les dynamiques de la psychanalyse en Afrique de l'Ouest, notamment pour les derniers projets. La chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que Livio Boni disait, c'est que évidemment cette tradition historiographique est très présente, elle existe, mais elle s'oppose ou en tout cas elle s'articule difficilement avec une tradition psychanalytique ancienne qui a tout de suite cherché à faire discours sur elle-même et à présenter, à réfléchir à ses origines, parfois dans une optique extrêmement géographique. Enfin, ça commence dès Freud avec Ernest Jones. Et comme si, finalement, Livio Boni l'a dit, les mouvements psychanalytiques étaient cantonnés à une histoire, disons, occidentale. Or, quand on regarde la trajectoire de la psychanalyse, elle ne cesse d'être jalonnée par des expériences extra-européennes en Afrique, en Asie. Alors, des expériences qui cherchent à se réinventer localement, mais même on pourrait aller plus loin encore et regarder de manière plus précise les écrits freudiens du départ qui sont pris aussi dans un socle épistémologique ou épistémique qui répond d'une modernité et donc qui s'adosse d'une certaine manière à plein d'endroits à cet élan impérial ou cet élan colonial. Peut-être simplement rappeler que évidemment la psychanalyse apparaît ou émerge, développe de manière concomitante à bien des moments des grandes entreprises impériales ou coloniales, notamment pour la France du 19e siècle et du 20e siècle.
Et oui, et puis Freud lui-même, vous l'avez rappelé, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Enfin, c'est un monde dans lequel il vit, où il y a cette notion de minorité, de population qui se vivent, j'utilise coloniser, le mot ne convient pas, mais en tout cas qui se vivent en situation de coloniser. En 1921, Sigmund Freud écrit une lettre, il l'envoie au bout du monde.
Cher monsieur, j'accuse réception de votre livre « The Concept of Repression » et suis ravi de certifier la justesse de ses principales hypothèses ainsi que le bon sens qui en ressort. Grande fut ma surprise en apprenant que la psychanalyse ait pu rencontrer un si grand intérêt et une si grande reconnaissance dans votre pays, si loin de nous.
Sam Bakias qui nous lisait cette lettre de Sigmund Freud de 1921. Sam Bakias qui a préparé cette émission. Dites-nous, Livio Boni a écrit Sigmund Freud. Il écrit un collègue, j'ai envie de dire. Enfin, on ne peut pas les comparer, mais on est ici avec une discussion qui traverse vraiment le monde authentiquement.
Tout à fait. Vous venez de citer la réponse de Freud à Guérin Rachet-Carboz. Les premiers psychanalystes, qui est probablement les premiers psychanalystes extra-occidentales, les premiers psychanalystes indiens, et que j'ai défini aussi dans mes travaux, j'ai longuement travaillé sur cette figure un peu oubliée de l'histoire de la psychanalyse et pourtant extrêmement significative, peut-être les premiers psychanalystes postcoloniales. dans le sens où c'est l'intérêt des travaux de Bose, c'est aussi d'essayer de travailler toute une série de complexes hérités par, en particulier par la masculinité indienne colonisée. C'est-à-dire une sorte de castration, une prostration dont souffrait la masculinité indienne, blessée par l'expérience de la suggestion coloniale, et vis-à-vis de laquelle Bose élabore une série de recettes s'inspirant de la psychanalyse, utilisant la psychanalyse pour déconstruire les malaises coloniales. Un des points d'intérêt des travaux de Bose, c'est justement celui de contester l'idée que les saluts passeraient par une révérilisation des hommes indiens et de la masculinité indienne, et propose plutôt une alternative, une sorte d'identification à la femme. Il considère, pour simplifier à l'extrême, il considère que les femmes ont été à l'abri de la domination coloniale et qui constituent donc une sorte de réservoir psychique et moral et symbolique, etc. Et que pour se soustraire au rapport maître-esclave, il ne faut pas rentrer dans une dialectique, dans une confrontation directe, mais il faudrait plutôt que les hommes puissent puiser aux ressources féminines et d'une certaine manière se soustraire comme ça ou se déplacer par rapport à une confrontation directe. C'est pour ça que les travaux de Bose rentrent d'une certaine manière en dialogue avec les thèses de Gandhi ou d'autres sur la non-violence, sur la prégnance du féminin, sur les ressources dont le féminin serait porteur comme facteur de décolonisation. Il y a une phrase célèbre de Gandhi vers la fin de sa vie, « Je suis devenu psychiquement femme ». Je suis devenu psychiquement femme, ça désigne non pas une féminisation de Gandhi lui-même à proprement parler, mais cette idée de ce déplacement qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle il faudrait une sorte de réphalicisation pour se décoloniser. Non, c'est un pas de côté que propose d'une certaine manière Bose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait aussi avec les outils qu'il emprunte à Freud et à la psychanalyse.
Est-ce que nous savons comment ce psychanalyste indien, Bose, connaît les travaux de Freud? Parce que nous sommes au début de la psychanalyse avec toujours cette idée que pour devenir psychanalyste, il faut avoir été soi-même psychanalysé, mais ici on est au début, donc on peut pas être psychanalysé.
Tout à fait. Et alors, vous avez dit une lettre au bout du monde. Calcutta, c'était loin, mais c'était pas le bout du monde à proprement parler. C'était la deuxième plus grande ville de l'Empire. Calcutta, à cette époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, est une ville très importante. Il y a la première université indienne. La psychiatrie a déjà en présence. Il y a une tradition, par exemple, très importante en hypnose. Les médecins écossais James Esdale avaient séjourné longtemps à Calcutta et avaient répandu l'usage de l'hypnose, y compris dans les hôpitaux, par exemple. Et Bose vient de là. Bose parvient à la psychanalyse par un intérêt pour l'hypnose. Puis il commence à lire les peu de traductions disponibles de Freud en anglais. Il soutient la première thèse de psychologie soutenue en Inde, et en 21, The Concept of Repression. Il l'envoie à Freud. Freud la lit, la valide et autorise Bose à pratiquer l'analyse et à former donc une première génération d'analystes indiens.
Raphaël Gallien.
Oui, sur ce contexte, je voudrais rebondir sur le rôle de la psychiatrie, c'est quand même extrêmement important. Alors moi, je me place d'un point de vue de l'histoire africaine, plus exactement sur laquelle je travaille, mais la psychanalyse émerge d'une psychiatrie. Une psychiatrie qui est installée pour les régions de l'Empire colonial français depuis le début du XXe siècle, et ça marque une véritable rupture, parce que la psychiatrie d'alors est massivement marquée par la théorie du primitivisme, donc qui doit beaucoup à la mentalité primitive de Lucien Lévy-Brulle en 1922, qui avait une position en réalité un peu plus ambiguë que ce que l'ouvrage, ce qu'on a pu faire de l'ouvrage. Mais dans les années 1930, l'un des grands psychiatres coloniaux, c'est Antoine Porot en Algérie, et qui utilise très largement cette théorie du primitivisme pour avancer l'idée que l'indigène serait empreint d'un fatalisme, de crédulité et surtout d'une inaptitude à l'abstraction et à l'introspection. Donc quand certains viennent mobiliser la psychanalyse pour décoder, comprendre ce qui se joue localement, ça marque véritablement un pas de côté. Alors, pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire, le meilleur, on voit qu'il y a certaines entreprises, par exemple, comme en Afrique du Sud, avec Wolf Sachs, qui à la base est un psychiatre russe, lituanien russe, qui est installé en Afrique du Sud, et qui s'en sert pour justement rompre avec cette approche évolutionniste. et qui va se mettre en quête d'une écoute des symbolisations produites par les cultures africaines. Et dans le même temps, toujours dans ces années 30, on a un autre médecin, toujours en Afrique du Sud, Barent Lubscher, qui est responsable du Queenstown Mental Hospital et qui va lui user justement de la psychanalyse pour faire de l'Africain un sujet coincé dans un stade infantile du développement de la personnalité. Donc évidemment, on est loin de l'univoque, mais on voit bien que là, la psychanalyse peut, à certains endroits, permettre des déplacements.
Oui, parce qu'il est à prendre en compte hein, ce paramètre du racisme, on peut le dire ainsi pour utiliser un mot un peu tiroir, mais il y a de ça, il y a l'idée que ça va être difficile d'appliquer sur ces populations des méthodes qui sont déjà difficilement applicables en Europe au moment de soigner les gens qui ont des traits qui ne correspondent pas à l'attente de la société. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est la psychanalyse qui se met en place en Europe très bien, mais alors pour l'exporter dans le reste du monde, ça va être plus difficile. Il y a cette idée-là ?
L'idée d'une exportation de la psychanalyse dans le reste du monde s'affirme du point de vue organisationnel et autres après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, il faut attendre.
À cette époque, il n'y a pas cette idée. Donc il y a comme ça des foyers de diffusion qui sont parfois éphémères. C'est ça aussi qui émerge à travers notre livre, auquel ont contribué quand même une trentaine de chercheurs, donc c'est très polyphonique, aussi bien du nord que du sud du monde, etc. C'est-à-dire que l'histoire de la psychanalyse dans ces restes du monde est une histoire intermittente, discontinue, par séquences qui s'ouvrent et se referment, ou on la définit aussi conjoncturelle, c'est-à-dire elle est liée à certaines conjonctures particulières où elle gagne une pertinence, quitte à disparaître ensuite pendant un temps et à réémerger plus tard. C'est le cas de l'Inde, où la psychanalyse fait un premier essor très spectaculaire dans les années 20-30, parce qu'elle trouve une pertinence dans des débats concernant la décolonisation, et puis disparaît presque une fois ou presque après l'indépendance de l'Inde, en 1947, pour ne ressurgir qu'à la fin des années 70, après la première grande crise politique qu'on est l'Inde postcoloniale, avec la tentative autoritaire d'Indira Gandhi, la première grande crise du système et de l'idéologie inspirée au gandhisme, etc. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire, c'est d'une certaine manière, la psychanalyse dans le reste du monde s'accompagne à des moments de crise collective, des crises, des projets hérités, des mouvements de décolonisation, etc. Elle n'a pas cette tradition, ces continuités, cette épaisseur qui est là dans le nord du monde. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une véritable pertinence et incisivité.
Ah oui, la pertinence, elle est là. On sent aussi qu'il y a quelque chose qui est en marge. Raphaël Gallien, c'est toujours le piège, quand on observe son propre objet d'étude, de mettre en avant des cas très particuliers. La prise en charge des maladies mentales, ce n'est pas encore la psychanalyse dans ces territoires colonisés. Hein. Bien souvent, c'est déjà en Europe, c'est à la dure, et là-bas, c'est encore plus à la dure.
Oui, la psychiatrie est toujours le parent pauvre d'une politique médicale plus large. Donc la psychanalyse dans la psychiatrie, ça reste quelque chose d'extrêmement périphérique. Néanmoins, c'est des endroits où se jouent beaucoup de choses, parce qu'on est toujours confronté à des situations de crise. Alors la psychiatrie, d'une manière générale, à l'échelle de l'Empire colonial français, par exemple, c'est d'abord Madagascar en 1912, et puis ensuite l'Indochine en 1917-1919, puis l'Algérie, dont on parle très souvent, avec Blida, Fanon et d'autres avant lui, dans les années 30, et puis dans les années 50 seulement, l'Afrique de l'Ouest avec l'école de Fanon à Dakar. Tout ça forme une constellation qui, avec des idées qui circulent ou pas en fonction des moments, et puis des temporalités, avec par exemple Madagascar qui évidemment au début du siècle occupe une grande place dans l'intérêt des psychiatres qui, depuis les années 1910, portent un intérêt croissant sur ces questions dans les empires. Et puis à la suite de quoi, d'autres régions vont prendre un peu le devant d'un point de vue du paysage psychiatrique avec l'Algérie et puis ensuite l'AOF.
Nous avons évoqué ce médecin indien, Boz, influencé par les propositions de Freud. Qu'en est-il dans l'autre sens? Parce qu'il y a une correspondance et la correspondance signifie qu'il y a des allers-retours d'idées, réflexions autour de Freud et de l'Inde.
Freud évidemment a découvert quelque chose de très proche des techniques indiennes. Mais il n'est pas allé, il aurait pu, mais il n'a pas voulu aller aussi loin. Et c'est l'Inde qui nous apporte exactement cette leçon. Et je dois dire que l'occidental, malheureusement, très souvent au contraire, quand il a trouvé une chose extraordinaire, surnaturelle ou préternaturelle, je ne veux pas me battre avec les termes, quand il a trouvé ça dans l'Inde, il essaye au contraire de reculer, de l'amoindrir, d'en faire une toute petite chose au lieu d'en faire une chose très importante.
Nous étions en 1967 et nous avons entendu Maryse Choisy, journaliste, écrivaine. Elle est fondatrice de la revue Psyché, revue internationale de psychanalyse et des sciences de l'homme. Qu'en pensez-vous, Livio Boni, de cette réflexion sur l'intérêt? Et on sent quand même une grande difficulté à comprendre le fonctionnement de l'autre. Et ce que propose Boz, c'est quand même assez éloigné de ce qu'imagine Freud.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de symétrisation possible à cette époque. Il est vrai qu'à la fin des années 20 et au début des années 30, il y a une discussion qui s'amorce entre Boz et Freud, parce que Boz défend l'idée qu'il y aurait une variante indienne de l'Édipe. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, ça serait un peu technique, mais c'est un point important parce que c'est la première fois, et à ma connaissance c'est la seule, où s'amorce un dialogue entre Freud et un psychanalyste non occidental sur les variantes de l'Édipe dans d'autres contextes culturels. Mais le nazisme arrive au début des années 30, les situations personnelles, les santé, etc. de Freud précipitent et il n'aura pas le temps de poursuivre cette discussion. Et d'autres auteurs, je pense au psychanalyste indien Sudhir Kakar qui vient de disparaître et qu'hommage soit rendu à son œuvre importante et largement traduite en français, des auteurs comme Sudhir Kakar ont d'une certaine manière repris après coup des éléments de ces dialogues pour les réactualiser, mais ça ne s'est fait pas dans l'immédiat et on ne peut pas parler d'une influence, un retour direct de thèse de Boz sur Freud.
Avec le cas particulier de l'Inde, colonie britannique, et vous l'avez bien évoqué en disant que Calcutta, quelque part, ce n'est pas si loin que cela de Londres parce qu'il y a des échanges constants. L'idée même qu'il y a la possibilité de mettre en place d'autres approches dans un contexte culturel différent, Raphaël Gallien, pour le cas français, ça apparaît à partir de quel moment?
Je crois que résolument, c'est après la Seconde Guerre mondiale, alors ça dépend d'où est-ce qu'on se place, mais si on prend par exemple la trajectoire d'Henri Collomb, qui est très intéressante, c'est un psychiatre militaire formé à Bordeaux puis à Marseille, qui très classiquement est formé pour être envoyé dans ces terres colonisées et être un médecin de la colonisation. Mais il se trouve que pour deux raisons, une raison personnelle, Henri Collomb est d'abord envoyé à Djibouti dans les années 40 et il va être proche d'Haïlé Selassie qui a dû résister à cette seconde tentative italienne en Éthiopie. Qui va lui faire, évidemment, qui lui fait déplacer son point de vue, qui finalement lui fait voir les choses autrement. Ce qui fait que quand il arrive en 58 à Fan Dakar, lui-même a une vision sur ce que c'est que cette souffrance et ces troubles assez différentes, parce que nourrissant une plus grande proximité avec ces populations, en tout cas une proximité qu'il va chercher à nourrir, on y reviendra. Et puis le deuxième point là, qui nous fait dépasser les histoires individuelles ou les questions de personnes, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, l'empire colonial ne peut plus être ce qu'il était avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a toute une politique qui se met en place où on cherche finalement à inventorier ce qui a été fait jusque-là et à réfléchir à ce que va être l'Empire ou ses restes, justement, dans les décennies à venir. Et donc, on va investir massivement dans des institutions qui vont être là pour proposer un discours plus proche. Et on va essayer de comprendre finalement ce qu'on n'est jamais parvenu à comprendre, comprendre le symptôme. Quelle place a ce symptôme, comment il fait sens et comment il implique non pas simplement un individu, mais une famille, un groupe, et à terme, ça c'est une des grandes leçons de Fanon, une société et une histoire tout entière.
Avec ici quand même une étude que vous consacrez sur un temps colonial, pas dire complet, mais enfin assez long sur Madagascar, c'est 1863-1970. Et vous nous dites, Raphaël Gallien, qu'il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour voir apparaître l'idée que le contexte colonial doit ou impose des pratiques différentes. C'est-à-dire qu'en 1863 et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est quel type de pratique pour soigner les fous, vivre fou, entre guillemets, c'est le titre de votre thèse.
Oui. C'est difficile de vous faire une réponse générale parce que ça dépend beaucoup des localités. Si on s'appuie sur Madagascar, la spécificité de Madagascar, c'est que très rapidement, ce sont des médecins malgaches qui sont formés localement, qui vont être en poste dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on appelle alors des asiles, parce que les moyens ne sont pas véritablement là. On manque en permanence de personnel médical et donc les personnels européens sont destinés à d'autres fonctions jugées plus importantes. Donc la clinique qui est développée est finalement une clinique qui cherche surtout à gérer le malade, à le contenir d'une certaine manière, et pas tellement à Madagascar à produire un discours sur l'indigène. Il n'y a jamais eu, comme ce qu'on va rencontrer ensuite en Algérie, un discours, une spéculation teintée d'un racisme qui est très ambigu, hein, parce que c'est une spéculation raciste, incontestablement, mais qui cherche en même temps à inventer quelque chose d'autre, à inventer une clinique particulière avec des médecins qui sont pris dans cette nécessité de montrer au monde la spécificité même de leur clinique pour avoir des moyens, pour pouvoir avoir cette liberté de développer un modèle. Et donc là, ça, c'est une clinique extrêmement raciste, extrêmement spéculative. Mais finalement, cette nécessité de se décaler, de réellement comprendre ce qui se joue à travers la maladie mentale pour les coloniser, vient effectivement beaucoup plus tardivement.
Avec l'idée même, et toute simple, de savoir ce qu'est la folie.
Mais si vous voulez, pour nous, la grande découverte a été un peu celle-ci. Au fond, si l'on réfléchit à la psychiatrie, au problème de la psychiatrie dans notre monde, le psychiatre est un monsieur qui a pour rôle de guérir des gens que l'on appelle des fous. Le fou étant un aliéné, étant considéré comme étant dangereux pour la société. Dans la société africaine, le psychiatre africain, le guérisseur, le zima, le prêtre, le prophète, au contraire, est un personnage qui est destiné à intégrer le fou dans la société en s'en servant. C'est-à-dire, dans un cas, on essaye de ramener le fou au niveau normal. Dans le second cas, au contraire, on essaye de se servir de sa folie. La folie est considérée comme sacrée, comme un contact avec l'autre monde. Elle peut être dangereuse. Il s'agit à ce moment-là de sorcellerie, de la dévoration, etc., etc. Elle peut être au contraire bénéfique. Il s'agit du contact avec les divinités de la nature, donc un contact des hommes avec leur Dieu.
Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Jean Rouche, en 1968, lors du congrès international de psychiatrie de Dakar, Livio Boni. Mais oui, mais c'est au cœur de tout. Savoir ce qu'est la folie, au sens où la folie n'est pas considérée de la même manière selon les contextes culturels. Ça aussi, c'est à prendre en compte dans cette réflexion de la psychanalyse du reste du monde.
Oui, oui et non, parce que d'une certaine manière, la folie n'est pas l'objet central de la psychanalyse. Il faudrait chercher plutôt du côté de l'ethnopsychanalyse ou de l'ethnopsychiatrie un travail serré sur les différentes conceptions de la folie dans des espaces culturels différents, à travers la possession, à travers des formes très différentes. Donc, du coup, la question de la folie n'est pas centrale dans notre travail sur la psychanalyse du reste du monde, dans la mesure où, bien sûr, elle est pas absente, mais je crois que pour cela, c'est plutôt du côté de l'histoire et de l'ethnopsychiatrie qu'il faudrait voir, à laquelle ont contribué des psychanalystes comme Devereux, évidemment, mais dont nous traitons que de façon marginale dans les livres.
Oui, parce que vous traitez de la psychanalyse, et donc on est sur une autre forme, c'est l'analyse, c'est-à-dire que l'objet d'étude n'est pas le même, et la folie nous conduit plus vers la psychiatrie. Raphaël Gallien.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Livio, d'abord merci pour cet archive qui est absolument magnifique. Il faut bien voir que il y a, par exemple, si on prend l'école de Fan, donc à Dakar, cette nécessité d'une psychiatrie ou d'une clinique qui ne cherche plus uniquement à contenir une manifestation, somme toute, pathologique ou un trouble, en tout cas, mais qui cherche véritablement à comprendre ce symptôme et donc à redonner de l'épaisseur au sujet. Une épaisseur qui peut être familiale, évidemment, une épaisseur surtout sociale, une épaisseur historique. C'est ce qui pousse Henri Collomb, qui est donc un psychiatre, à s'entourer d'une équipe très éclectique, avec des ethnographes, des ethnologues, des anthropologues, des linguistes et aussi des psychanalystes. Parce que la psychanalyse va est en mesure d'enseigner une écoute particulière. Alors évidemment, ces psychanalystes, quand on les lit, c'est tout à fait intéressant parce qu'ils nous disent qu'ils doivent tout désapprendre, en quelque sorte, laisser un petit peu le corpus dans les mâles et véritablement se plonger dans une société qui va tout leur enseigner. Et l'objectif de cette clinique, c'est véritablement de saisir le sujet dans toute cette épaisseur. Pourquoi ? Parce que les médecins qui sont en poste là-bas, psychiatres ou psychanalystes, se rendent très vite compte que l'écoute telle qu'ils ont l'habitude de la pratiquer ou pas ne fonctionne absolument pas. Par exemple, Colomb raconte écrit de manière magistrale que quand le malade vient à l'hôpital, il vient accompagné de toute sa famille qui attend aux portes de l'hôpital. On ne sait pas très bien quoi en faire. Et surtout, l'entretien clinique en face à face ne fonctionne absolument pas. Et donc, c'est à la fois le dispositif qu'il faut revoir et en même temps le corpus théorique, parce que c'est une question qui ne cesse tout au long du XXe siècle d'être rouvert à nouveau frais. Par exemple, sur l'universalité de l'Édipe, comment l'Édipe s'exprime, c'est là un des grands enjeux, par exemple, de l'école de Fanes, qui va donner lieu à un ouvrage célèbre dans les années 60, Édipe africain.
C'est quoi ça, cet ouvrage ? C'est toujours cette réflexion autour de l'Œdipe. On l'a évoqué pour l'Inde avec cette difficulté à le comprendre, et c'est un peu la même chose pour le cas africain. Mais alors là aussi, l'Afrique, c'est utiliser un mot pour désigner tant de variétés de situations et de populations.
Oui, absolument. D'ailleurs, les Marie-Cécile et Edmond Horty, qui sont les deux auteurs, l'un était philosophe et l'autre psychanalyste, les deux auteurs de ce livre, à la fin de leur vie, sont revenus pour préciser les choses, parce qu'évidemment, on englobe sous des termes génériques des réalités qui sont en réalité multiples et extrêmement complexes et qui répondent d'historicité différente. Mais ce livre, en quelques mots, c'est véritablement rouvrir cette question de l'Édipe. Est-ce qu'il y a une rivalité édipienne en Afrique ? Ce qui pose aussi la question de l'accès à l'inconscient et du travail de l'inconscient dans des sociétés qui étaient souvent présentes comme en étant démunie. Et puis, c'est donc véritablement là une psychanalyse qui cherche une représentation dynamique de la vie psychique. Quand je dis dynamique, c'est un livre qui questionne les conditions historiques de l'exercice de la psychanalyse. Marie-Cécile Ortig disait qu'il serait critiquable de méconnaître les traditions et leur pouvoir organisateur, tout autant que d'y renvoyer en permanence le malade pour l'y enfermer. Donc, c'est une sorte d'articulation comme ça, tout à fait nouvelle, qui cherche à saisir un nouveau dispositif et à terme une nouvelle lecture de l'inconscient, évidemment héritier de dispositions européennes, mais qui véritablement cherche à coller à ce qui se pratique et à ce qui se rencontre sur place.
Et avec une chronologie qui n'est pas linéaire, au sens où on sent que en Inde, il se passe quelque chose qui peut correspondre à ce qui va se passer ailleurs. C'est pas exactement la même chronologie. Il y a une antériorité de la psychanalyse en Inde adaptée donc au reste du monde.
Oui, je crois que les cas de l'essor de la psychanalyse en Inde entre les années 20 et les années 30 est un peu un unicum. Et il est vrai que il existe par exemple une réception de Freud très importante et assez précoce par exemple au Mexique. Mais cette réception au Mexique de Freud est beaucoup plus l'effet des milieux artistiques, littéraires, ou d'un rapport qu'on recherche très précocement au marxisme, à la pensée marxiste. Une dimension clinique très faible au début. Donc c'est très différent. Mais d'autres situations présentent cette intermittence. Si on s'intéresse par exemple au cas chinois, le cas chinois est très intéressant parce que il y a une première percée, un premier intérêt de la psychanalyse, pour la psychanalyse en Chine, dès les années 10-20, parce qu'on cherche on repère dans le freudisme une pensée de la modernité dont la Chine aurait besoin pour se remettre à la page et pour cette période moderniste de la Chine avant la révolution. La psychanalyse disparaît après, presque pendant toute la période de la guerre civile, de la révolution, la période maoïste, etc. Et puis elle fait un retour inattendu au début des années 90 en Chine, à travers la clinique d'enfants, par exemple, en s'occupant des retombées des politiques de l'enfant unique et toute la pression qui était mise sur l'enfant unique, souvent des enfants qui grandissaient sans leurs parents parce que l'émigration interne était un phénomène gigantesque. est-ce que les parents allaient travailler dans d'autres régions chinoises et les enfants grandissaient avec les grands-parents. Donc il y a une sorte d'épidémie d'autisme qui se développe en Chine. Et c'est à partir, par exemple, d'une clinique de l'autisme que certains psychanalystes français, comme Michel Guibal, commencent à être sollicités à venir en Chine. Et donc la porte d'entrée, par exemple, pour la psychanalyse française et lacanienne en Chine dans les années 90, c'est la clinique d'enfants d'abord. Mais c'est un point comme ça de mal-être, très précis. Et je crois que ça aussi, c'est instructif. C'est-à-dire que pour que la psychanalyse puisse trouver des points de pertinence dans des contextes très éloignés, elle ne doit pas avoir une position de surplomb. Elle doit pouvoir repérer des points spécifiques, des malaises propres à ces contextes-là et à partir de là, proposer son apport. Autrement, elle risque de prêcher et de proposer comme voilà, une doctrine sous une forme quasiment missionnaire, mais sans pouvoir trouver un point d'arrimage véritable.
Raphaël Gallien.
Oui, c'est très important. Je rejoins complètement Livio Boni, si on prend quelqu'un de désormais très célèbre, Frantz Fanon. Un article très important, le syndrome nord-africain, publié en 1952. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cet article? C'est qu'il est face à des manifestations psychiques, enfin une souffrance sans adresse, qui ne trouve pas à qui s'adresser. Et c'est à partir de là que Fanon aussi va développer toute une théorie, une clinique assez inédite. Le point de départ, il est aussi là. Donc c'est véritablement qu'il y a une souffrance France, qui ne trouve pas à qui s'adresser et qui ne rentre pas en correspondance avec le corpus traditionnellement déplié. Et donc il y a cette nécessité d'entendre nouvellement ce symptôme, de lui trouver une adresse et trouver le moyen de cette adresse, c'est évidemment être attentif à ce qui se joue localement à partir de réalités cliniques qui sont toujours extrêmement situer, localiser à la fois dans le temps et dans l'espace.
Oui, c'est ça, c'est ce contexte que nous évoquons, ce contexte dans le temps bien sûr, ce contexte culturel aussi qui doit prendre en compte ces longues traditions.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Ma vélo mitaa de Dimili musicien de Tsapiki, et le Tsapiki, la Tsapiki, c'est une musique de Madagascar. Cette réflexion qui nous porte aujourd'hui dans le cours de l'histoire nous conduit jusqu'à la psychanalyse du reste du monde, géohistoire d'une subversion. C'est l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Livio Boni, avec Sophie Mandelson, publié à La Découverte. Cette histoire-là, on le voit bien, est extrêmement difficile à construire, mais on le dit simplement par la verbalisation de ce qu'est la psychanalyse du reste du monde. Le reste du monde, c'est énorme, et la psychanalyse de l'ailleurs considère que l'ailleurs est toujours différent. En fait, ce sont des études de cas qui, mises bout à bout, nous permettent d'avoir un ensemble cohérent. Est-ce qu'il y a des lignes directrices à travers ces psychanalyses du reste du monde? Est-ce qu'il y a des traits communs entre ce qui va se passer en Inde, en Afrique, en Chine, dans la démarche?
Oui, à la fin du texte introductif au livre, nous esquissons une sorte de certaines dominantes. Par exemple, c'est un exercice heuristique, il ne faut pas les prendre complètement à la lettre, mais par exemple, on peut constater, dans les cas asiatiques, par exemple, et indiens en particulier, mais un fort rapport entre la psychanalyse et les questions de décolonisation. en Amérique latine un rapport précoce et durable qui dure jusqu'à aujourd'hui, un rapport très fort entre psychanalyse et marxisme. En Afrique, un rapport essentiel à l'ethnographie et donc aussi aux thérapies traditionnelles, c'est-à-dire on ne peut pas pratiquer ou la psychanalyse d'une manière ou d'une autre sans être confronté aux thérapeutiques traditionnelles en Afrique. En Chine, je disais, c'est plutôt lié aussi à certaines failles laissées par les systèmes politico-étatiques, etc. Donc, c'est comme si la psychanalyse pouvait s'engouffrer d'un certain point. Et aujourd'hui, la psychanalyse en Chine, par exemple, c'est assez intéressant, est pratiquée dans les campus universitaires. C'est-à-dire, certains étudiants de psychologie peuvent faire une analyse dans des cabinets qui sont installés dans les campus même. Et là, ça constitue une sorte de zone où une certaine liberté de parole est tolérée tout en étant encadrée, etc. Donc oui, il existe comme ça des sortes de sous-ensembles, des dominantes comme ça, qui caractérisent des modes de circulation de la psychanalyse dans le reste du monde, dont on peut esquisser une cartographie différentielle.
Avec l'idée de prendre en compte les contextes culturels différents, bien sûr, et vous venez de l'évoquer, les thérapies traditionnelles. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La musique malgache qu'on vient d'écouter, justement, est utilisée lors de cérémonies pour des thérapies traditionnelles. Raphaël Gallien, c'est ça aussi qui doit être pris en compte dans cette démarche psychanalytique de l'ailleurs, c'est regarder déjà ce qui se fait, parce qu'il y a toujours eu des pratiques ou des tentatives de solutions pour répondre à des questionnements ou à des mal-êtres.
Oui, absolument. Encore une fois, ça dépend des régions. Quand on parle de Madagascar, malheureusement, la psychiatrie est restée assez sourde à ces pratiques qui pourtant sont omniprésentes. Et il faut bien rappeler que bien souvent, la personne en souffrance n'arrive dans les mains d'un psychiatre, voire d'un psychanalyste, qu'en dernier recours. Alors, il ne s'agit pas d'opposer ces thérapeutiques. Bien souvent, elles sont complémentaires. On va voir le thérapeute traditionnel et en même temps le psychiatre, voire le psychanalyste. Mais effectivement, ces pratiques traditionnelles ont beaucoup à enseigner. Du moins, c'est une des conclusions de l'équipe de Fana Dakar. Mais on retrouve ça aussi dès les années 30. Je parlais tout à l'heure de Wolf Sachs en Afrique du Sud, qui s'interroge sur le cadre d'une écoute et sur des techniques thérapeutiques locales qui peuvent permettre aux psychiatres occidentaux d'entendre quelque chose qu'ils n'entendraient pas autrement.
Livio Boni, vous nous avez évoqué l'hypnose dans le cas de l'Inde. Ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, et on l'a senti dans cet échange entre Bose et Freud, qu'il y a un intérêt réciproque. C'est pas un intérêt uniquement de la part de l'Indien vers l'Occidental. C'est pas comme ça que ça se passe. L'hypnose, ça rentre dans cette réflexion de thérapie traditionnelle.
Non, l'hypnose, Freud avait commencé par l'hypnose. Freud, c'était quelqu'un qui avait étudié l'hypnose, notamment à Nancy. C'était plutôt un terrain commun, c'est-à-dire ça faisait un point en commun entre Bose et Freud. Les deux avaient commencé d'une certaine manière par l'hypnose.
Avec l'idée que l'hypnose telle qu'elle est pratiquée en Inde peut enrichir la démarche freudienne, ou est-ce qu'il y a des pratiques traditionnelles de thérapie indienne qui peuvent inspirer la psychanalyse ?
Disons que non, que Bose s'était formé donc en tant que médecin à l'hypnose, mais une hypnose qui venait de Grande-Bretagne, à travers, je mentionnais tout à l'heure, Esdale, ce médecin très important pour le développement de l'hypnose en milieu médical au 19e siècle. Mais cela dit, vous avez raison, parce que à certains égards, parce que plus tard, Bose élaborera sa propre technique analytique, psychanalytique, qui en partie s'inspire de l'hypnose, et il appelait ça la méthode de la balançoire, c'est-à-dire une méthode, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il s'agit de susciter chez les patients toute une série de fantaisies induites, donc s'inspirant de la méthode hypnotique, des identifications contradictoires, par exemple chez des patients qui souffriraient d'impuissance, dont la masculinité serait entravée. Bose sollicitait des formes d'identification à la femme. Non pas encore une fois une révélisation, mais une identification à la femme, à sa jouissance, etc. Avec l'idée que on peut décoincer une position masculine dans la mesure où on la pousse à s'identifier à son opposé. Et donc il appelait ces mouvements oscillatoires d'identification des contre-identifications méthode de la balançoire. Mais ces mouvements oscillatoires rappellent les mouvements de la pendule hypnotique. Donc effectivement, finalement, Bose avait conçu une forme de synthèse entre l'hypnose des matrices occidentales qu'il avait hérité donc de l'école d'Esdale et la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie de l'Advaita Vedanta, de la dualité non dualiste, qui prône l'idée que toute identification monolithique, monique, etc., est à compenser par la réintroduction du pôle contraire, et c'est par cette oscillation que les sujets peuvent véritablement trouver un espace de viabilité.
Oui, et pour prolonger, cette question est au centre des reconfigurations de la fin des années 50, puisque en 1958, par exemple, on a la réunion des, alors le titre est un peu long, réunion des spécialistes du Conseil scientifique africain sur la psychologie de base de l'africain et du malgache. Ces trois réunions, deux en 58, d'abord à Bukavu, puis à Brazzaville, puis une en 59 à Tananarive, qui cherchent à porter cet héritage parfois incompatible, chercher à savoir ce qu'il va pouvoir rester d'une psychiatrie et d'une psychanalyse possiblement occidentale, et un héritage africain qui existe, qui est là, qui n'a jamais disparu, et comment ces deux héritages-là peuvent se rencontrer et produire une clinique nouvelle. Et ça débouche dès le lendemain des indépendances, en 1961. C'est là qu'on voit que l'indépendance est quelque chose qui se prépare et qui se replace sur un temps long, c'est une dynamique. En 61, on a la première conférence panafricaine de psychiatrie qui a lieu au Nigeria. Et en 1968, on en a entendu une archive tout à l'heure, on a le deuxième congrès panafricain de psychiatrie qui a lieu à Dakar, notamment accueilli par Henri Collomb de l'école de Fans. Donc on voit bien là, dans la fin de ces années 50, début des années 60, que ces questions sont au centre, et elles sont aussi portées par des dynamiques internationales, hein, l'OMS s'intéresse beaucoup à ces questions-là, mais sont au centre d'une recomposition qui cherche à assimiler, à articuler l'ensemble de ces héritages.
Oui, avec le moment de la crise. On l'entend bien. Depuis que nous discutons autour de la psychanalyse du reste du monde, il y a ce moment de crise. Et vous, Livio Boni, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est vrai qu'on voit bien dans les chronologies qui se mettent en place, le moment, c'est logique, le moment du besoin crée le développement de la psychanalyse. Et dans le cas de Madagascar, la crise, c'est celle de 1947.
Quand éclata la rébellion de 1947, un voile se déchira. Et pendant un court moment, un éclat de lumière éblouissante permit de vérifier la série d'intuitions auxquelles on n'avait pas osé croire. Par bonheur, j'étais en état de comprendre ce que je voyais de façon si inattendue. On aurait dit que les difficultés qui avaient inhibé et brouillé mes premières impressions avaient disparu. Pendant que j'écrivais, il me semblait que les choses que je commençais tout juste à comprendre, je les avais vraiment sues d'une certaine manière depuis longtemps. Plusieurs personnes ont eu les mêmes impressions par la suite, en lisant ce que j'ai écrit.
Psychologie de la colonisation d'Octave Manoni, à propos de la grande révolte malgache de 1947. Dites-nous, Raphaël Gallien, qui est Octave Manoni ?
Octave Manoni, c'est un philosophe de formation qui est né en 1899 en France, qui va être envoyé en tant que professeur de philosophie en Martinique en 1925 et puis ensuite à La Réunion et à Madagascar à partir de 1931. C'est quelqu'un qui est donc professeur de philosophie mais qui pour un très court temps va être directeur de l'information, autrement dit il va gérer la propagande coloniale telle qu'elle s'exprime. Ça ne durera pas très longtemps. Et en parallèle de quoi, il va commencer en 1945 une analyse avec Jacques Lacan, donc son intérêt pour psychanalyse ne débute pas en 1947, mais l'anticipe, évidemment. Et c'est finalement le premier qui va poser un terme aujourd'hui très classique dans les sciences sociales. Quand on parle de la colonisation, c'est le terme de situation coloniale qui a ensuite été notamment repris par Balandier. Mais c'est Octave Manoni qui le premier l'installe pour désigner une situation intrapsychique tout à fait singulière, une articulation entre deux complexes, un complexe de dépendance et un complexe d'infériorité.
C'est ce complexe-là qu'on retrouve tout le temps, en fait. Cette situation qui nous intéresse, celle du reste du monde, bien souvent, c'est une situation coloniale. Et la notion de dépendance et d'infériorité, ça se répercute sans arrêt. Toujours dans cette réflexion, peut-être des traits communs de ce reste du monde, ça, on peut le mettre en place. Parce que même dans le cas de l'Inde, indépendante en 1947, on va retrouver ça avec les échos que ça a, toujours bien après les indépendances.
Oui, en tout cas, la locution de situation coloniale, effectivement, peut être utilisée de façon transversale. Raphaël Gallien vient de rappeler que c'est, on la doit à Manoni, c'est un apport important. Pourquoi ? Parce que la notion de situation, qui est emprunté à Sartre, signifie deux choses. Signifie d'abord que la domination coloniale implique une relation. C'est pas une domination univoque. Il y a deux termes qui sont en relation entre eux, mais la notion de situation configure donc le rapport entre deux termes, mais aussi une certaine précarité. Quand on parle de situation, on parle de quelque chose qui est situé, qui est fragile, qui est précaire. C'est pas une condition, c'est pas un état. Lorsqu'on parle de situation, on désigne aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est fragile et qui peut se transformer si un événement intervient, si un facteur extérieur intervient, en autre chose. Et c'est exactement cela la fonction de la révolte de 47 pour Mannoni. Dans l'extrait que vous venez de citer, pour Mannoni, la révolte des 47, qui est un événement historique un peu oublié, mais important, parce que ça représente la première grande révolte dans l'espace colonial français après la guerre, si on accepte, à l'exception de Sétif, mais Sétif c'est autre chose, c'était une manifestation au début. C'est la première grande révolte et qui pour Mannoni a un effet de dévoilement, comme il l'écrit dans l'extrait que vous avez mentionné, parce que pour Mannoni la situation coloniale est fondée sur un partage des rôles extrêmement drastique entre activité et passivité, entre l'adulte et l'enfant, et la révolte fait sauter cette asymétrie pour un instant rétablir une symétrie, quelque chose, même à travers la violence, même à travers d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il faut des événements collectifs pour faire apparaître ce qu'il y a, la dimension des malentendus. C'est une autre catégorie que Mannoni utilise beaucoup pour analyser la situation coloniale. La relation coloniale est fondée sur un malentendu. Et ce n'est que des événements collectifs qui sont de l'ordre de la révolte qui peuvent faire sauter ces illusions, ces malentendus. Les historiens subalternistes, par exemple, ce qu'on appelle les historiens subalternistes indiens, ont beaucoup travaillé sur cette fonction des révoltes, qui parfois sont l'effet des groupes sociaux subalternes, qui viennent pas du centre, qui viennent pas des élites politisées, des partis organisés. C'était le cas de Madagascar. La révolte de 47, c'est pas l'effet des milieux les plus politisés, des indépendantistes, des milieux syndicaux, etc., mais concerne plutôt un parti de l'île plus excentré, une petite paysannerie. Le pouvoir ne la voit pas venir. Elle reconfigure la situation.
Et Raphaël Gagnon ?
Oui, sur 1947, alors peut-être qu'il faut préciser que c'est une sorte d'acmé, mais que les révoltes, les insurrections sont régulières en fait à Madagascar. Depuis le début de la colonisation, on a plus ou moins clandestinement des manifestations qui viennent essayer d'élaborer des tactiques pour s'affranchir du joug de la colonisation. Mais effectivement, dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, il y a quelque chose d'assez inédit qui émerge. Ça émerge en réalité à l'échelle de l'île dans son entièreté, mais ça va tout de suite être déjoué à Tananarive, à Diego Suarez plus au nord ou dans les villes de l'Est. Et c'est cette population de l'Est malgache qui effectivement vont tenir face et même gagner face dans les premières heures de l'insurrection face aux colonisateurs français. Qui sont-ils ces insurgés? Alors déjà, les chiffres sont toujours à manier en histoire avec beaucoup de délicatesse, mais on estime à peu près 1,5 million de personnes qui se soulèvent sur une population totale de 4 millions. Donc c'est quand même assez gigantesque. Et oui, ce sont des paysans, mais qui sont pas en marge malgré tout, enfin qui subissent le pouvoir colonial avec une grande intensité, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que donc la Seconde Guerre mondiale à Madagascar a été synonyme d'une baisse drastique du niveau de vie, et puis surtout dans cette après Seconde Guerre mondiale, on a une politique notamment du riz qui est extrêmement oppressive et une charge très importante qui explique que cette population n'en peut plus, c'est trop difficile, et elle est encadrée par d'anciens combattants qui viennent de l'Europe, qui ont un usage de la guerre, qui ont une pratique de la guerre, qui savent faire la guerre, et puis qui ont aussi vu les paradoxes de cette Europe qui s'affiche en permanence comme l'œuvre civilisationnelle, mais qui évidemment est pris dans ces paradoxes. Et puis enfin, des membres du MDRM, le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, un parti tout à fait officiel qui émerge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui compte des députés qui sont élus à l'Assemblée nationale en France, mais qui sont complètement dépassés par leur base, une base radicalisée qui n'entend plus raison et qui n'entend plus s'en tenir au rythme d'une coopération en train de se mettre en place pour une nouvelle Union africaine.
Avec ce changement de l'après-Seconde Guerre mondiale, cette vague de lutte pour les indépendances, les décolonisations, Livio Boni, je voudrais terminer avec vous, psychanalyste du reste du monde, et vous nous avez dit que la réflexion de la psychanalyse à l'échelle mondiale, c'est quelque chose depuis les années 1920 qui est une évidence. Donc l'ouvrage que vous co-dirigez est juste là pour poursuivre cette réflexion. Malgré tout, il y a dans l'esprit bien souvent encore l'idée que la psychanalyse, c'est quelque chose qui reste accroché à l'Europe et à l'Amérique du Nord, on va dire. Ça reste encore malgré tout prégnant. Et c'est aussi, pour un peu casser cette fausse idée, que la démarche que vous avez, psychanalyste du reste du monde, est utile.
Absolument, et je crois qu'il y a un imaginaire occidentaliste qui travaille l'autoreprésentation de la psychanalyse, j'en ai parlé tout à l'heure. Il travaille par certains mots qui ont toujours cours. Par exemple, on parle toujours des pionniers de la psychanalyse. Pionniers de la psychanalyse, ça rejoint cet imaginaire des conquêtes de l'Ouest, etc., où on sait que Freud s'est comparé à Christophe Colomb, au découvreur d'un nouveau continent, etc. Il y a tout cet imaginaire comme ça, colonial et occidentaliste, qui travaille la psychanalyse. Ça ne signifie pas que la psychanalyse, en tant que telle, comme épistémée, soit une épistémée coloniale. Nous avons voulu, d'une certaine manière, décoloniser l'imaginaire historique de la psychanalyse et montrer d'autres modes d'existence, de circulation de ces savoirs, et d'agencement, des transferts de travail, y compris entre les psychanalystes du Nord et du Sud. C'est très important.
Et c'est en cela que c'est très enrichissant. Merci vivement à tous les deux, Raphaël Gallien, Livio Boni, de nous avoir permis de découvrir cet univers-là. Évident, on le dit, mais souvent l'évidence est dissimulée, devient inconsciente. Il s'agit de la remettre un petit peu au centre de la discussion. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
Comment faire une longue carrière en politique quand on se dit historien ? Émile Durkheim considérait que la science et la politique requièrent des aptitudes complètement différentes, qui ne se trouvent réunies que de façon rarissime dans un même individu. Je me garderai dans cette chronique de me prononcer sur la pertinence de ce constat concernant les historiens de l'époque actuelle. Mais quand je me suis demandé à qui Durkheim avait bien pu penser en tenant ses propos, c'est le nom d'Adolphe Thiers qui m'est venu aussitôt à l'esprit. Né en 1797 à Marseille et mort en 1877, il fut l'un des principaux personnages politiques du XIXe siècle. Plusieurs fois ministre et deux fois président du Conseil sous la monarchie de Juillet, Thiers a été l'une des principales figures du Parti de l'Ordre au début de la Seconde République. Il cautionna la terrible répression du soulèvement révolutionnaire de juin 1848. Il refusa ensuite de se rallier au Second Empire, mais après la chute de Napoléon III, il devint le chef du pouvoir exécutif de la Troisième République. C'est à ce titre qu'il organisa le massacre des communards lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Le rôle qu'a joué Thiers dans la répression des deux principaux soulèvements révolutionnaires du XIXe siècle explique la réputation détestable qui est la sienne chez les historiens. Comprendre Thiers est au mieux un effort suspect et au pire un geste criminel, écrit Stephen Sawyer dans la biographie récente qu'il a consacrée à ce personnage. La longue carrière politique d'Adolphe Thiers a occulté le fait qu'il fut aussi l'un des principaux historiens de son temps. On ne lit plus ses ouvrages, bien qu'ils aient fortement contribué à la renommée initiale de Thiers en assurant aussi une bonne partie de sa fortune. L'histoire de la Révolution française en 10 volumes, qu'il publia entre 1823 et 1827, connut 11 rééditions durant la seule monarchie de Juillet. Et les 20 tomes de son histoire du Consulat et de l'Empire furent également très diffusés. Pour l'historien d'aujourd'hui, le principal intérêt des livres d'Adolphe Thiers, c'est qu'on peut y déceler une démarche politique que Stephen Sawyer qualifie de pragmatique. Thiers n'a jamais été considéré comme un intellectuel, car il fut avant tout un homme d'action, capable de s'adapter aux circonstances. Issu d'un milieu modeste, il aimait rappeler à ses adversaires que son parcours était redevable aux valeurs de la Révolution française, mais surtout à son travail et à son mérite. Il débuta comme avocat et journaliste, en publiant plus de 500 articles entre 1822 et 1828 dans le Constitutionnel, l'un des principaux journaux de ce temps. Cette omniprésence dans les médias de l'époque contribuèrent à l'élaboration d'une image qui servit son parcours. Il inaugura ainsi une nouvelle forme de gouvernement fondée sur la personnalisation de l'exercice du pouvoir. L'opportunisme de Thiers joua aussi un rôle dans son positionnement sur l'échiquier politique. Ni de droite, ni de gauche, il se situe plus souvent à droite et à gauche du centre, écrit Sawyer. Si Thiers n'a guère contribué au progrès de la science historique, force est de constater que son pragmatisme politique a ouvert une voie encore très fréquentée de nos jours.
Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Taïsia Froidure et Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, émission préparée par Jeanne Delecroix, Mathieu Copal, Anne Toscan-Vudet, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.